Les enfants l'ont rappelé, c'est inscrit dans leur tête, dans leur cœur également. Le premier élément, c'est cette pierre qui a été roulée. Hein, la pierre a été roulée. Et les premiers témoins, j'ai dit malgré eux, ce sont quand même les soldats. Imaginez un petit peu cette scène pour ces soldats qui ont eu certainement à faire des campagnes de guerre, qui n'ont pas été impressionnés par toutes ces victoires ou ces ennemis. Et puis là, devant ce tremblement de terre, devant la gloire de Dieu qui se manifeste à travers un ange, eh bien ces soldats romains sont complètement liquéfiés. Ils sont tétanisés, ils sont comme morts là devant cette pierre, et ils vont devenir les premiers témoins malgré eux de la résurrection. Puisqu'ensuite, eh bien, ils vont aller trouver les principaux sacrificateurs, leur raconter leur histoire. Et vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ce que ces souverains sacrificateurs et sacrificateurs vont leur dire? Ils vont dire, écoutez, dites que les disciples sont venus pour enlever le corps. Ça veut dire que soit vous êtes endormi, hein, soit vous êtes éloigné, mais, et puis si vous avez des problèmes avec vos supérieurs, parce que, ceux qui ont fait l'armée, vous savez que si on laissait passer l'ennemi, quand il était un tour de garde, c'était une faute, etc., et on méritait une sanction, eh bien, on s'arrangera avec vos supérieurs. Et ils leur donnèrent beaucoup d'argent, et la Bible nous dit que c'est un bruit qui a couru jusqu'à maintenant. C'est qu'on est venu enlever le corps de Jésus. Ses disciples sont venus enlever le corps de Jésus. En tout cas, Dieu là aussi bien manifeste sa gloire, sa puissance dans ce monde. Et il y a parfois bien dans ce monde qui ne croit pas en Dieu des témoins. Il y aura des témoins malgré eux de la puissance de Dieu. Dieu qui se révèle à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et puis les femmes bien sont les premières à le constater. C'est quand même une réponse à leur demande. Ce n'était pas spécialement une prière, mais cette interrogation entraîne, mais qui va venir nous rouler la pierre? Y aura-t-il des soldats? Est-ce qu'ils voudront le faire? Est-ce qu'on ne pouvait pas envoyer un SMS à Pierre pour dire, eh bien, viens en urgence, on a un problème? Et cette question, et le Seigneur eh bien, va répondre à leur question. Une remarque, hein, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte du tombeau. La pierre a été roulée pour que les femmes, les disciples, le monde entier constatent que le tombeau était vide. C'était une preuve pour nous, pas pour le Seigneur, nous le savons. Et on peut dire ce matin que ces disciples, ces femmes, eh bien, sont quand même des témoins surpris. Ils sont étonnés, ils sont bouleversés, ils ne savent plus du tout où ils en sont. C'est vrai, c'est pas vrai, etc. Ce sont des témoins surpris. Plaise à Dieu qu'il puisse encore nous surprendre. Plaise à Dieu que dans notre quotidien, dans nos journées, le Seigneur puisse encore nous étonner. Non pas qu'on soit incrédule de son amour, de sa puissance, mais qu'il y ait encore dans nos vies des étonnements, des surprises de la part de Dieu pour que nos vies soient de plus en plus épanouies. On posait cette question, mais peut-être que quelques-uns ce matin se posent cette question, mais qui va me rouler cette pierre? Hein, qui est dans ma vie. Alors c'est peut-être une pierre d'incrédulité, c'est peut-être une pierre de souffrance, c'est peut-être une pierre d'incompréhension, c'est peut-être une pierre de honte, c'est peut-être une pierre de culpabilité. Et il y a tellement de pierres énormes qui parfois bien, nous bouchent l'horizon et nous empêchent de nous épanouir. On reste frustrés, on reste dans certaines situations où finalement, si Seigneur, mais que se passe-t-il? Je n'arrive pas à m'épanouir. Une question personnelle, qui peut rouler cette pierre? Qui m'empêche pour l'instant d'aller un peu plus loin, de voir l'avenir sous un autre aspect? Eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que même si on n'est pas le dimanche de Pâques ce matin, c'est quand même un jour de résurrection. C'est quand même un jour où le Christ eh bien, roule et veut rouler et roulera encore des pierres ce matin, dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous empêchent de nous épanouir. Le but quand même de Dieu, de notre rencontre avec Jésus, de nous délivrer bien sûr du péché, et puis de commencer à nous épanouir ici-bas, de pouvoir le servir avec un cœur reconnaissant, avec un cœur joyeux, quel que soit l'endroit, quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous sommes, eh bien, c'est quand même le but que nous puissions nous épanouir. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle. Si vous êtes posé cette question, ce matin, qui peut me rouler cette pierre? Eh bien, il y a une bonne nouvelle, ce dimanche est encore un dimanche de résurrection. Amen. On l'a chanté, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ une pierre qui va être roulée, une mer rouge qui va s'ouvrir, peu importe. Eh bien, Jésus est toujours le Christ ressuscité. Et puis le deuxième signe, hein, il y en a d'autres peut-être, mais le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alors, rappelons-nous quand même que la loi interdisait à un crucifié d'être enterré dans le caveau familial. C'était quelque chose qui était inconcevable, bien sûr. Hein. Maudit soit celui qui est pendu au bois de la croix, c'était une réalité. Et on ne pouvait pas enterrer Jésus dans le tombeau familial. Voilà pourquoi, entre autres, hein, Joseph d'Arimathée, lui, bien, avait acheté un sépulcre qui était neuf. Mais là encore, ce tombeau, on pourrait dire, on aurait pu le mettre sur le Guinness des records. Hein. Il va devenir particulier parce qu'il sera certainement le tombeau hein, le moins occupé dans l'histoire de ces tombeaux, quelques heures à peine. Quelques heures à peine. Parce que le tombeau est vide. Les femmes l'ont constaté, Pierre l'a constaté, Jean l'ont constaté et d'autres. Le tombeau, il est vide. La pierre est roulée, mais le tombeau est vide. Et là, on a ce texte pour nous ce matin dans 1 Pierre 3,18, hein, qui nous rappelle eh bien, que Christ a souffert pour nos péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Et ce matin, eh bien, ce tombeau qui est vide nous parle aussi parfois pour nos vies où il y a comme des vides, il y a comme des éléments de notre vie qui nous semblent vides, qui nous semble sans vie, et on se dit, Seigneur, mais qui? Mais comment? Mais pourquoi? En tout cas, ce n'est pas par nos capacités, par notre chair, par nos pensées, que ces vides vont être comblés, mais il est dit ici que par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, et qui ce matin bien veut remplir votre cœur de ce dont il a besoin pour être comblé, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Remarque, hein, ces femmes, on le disait tout à l'heure, eh bien, le vendredi, elles ont vu mettre le Seigneur au tombeau. Elles savent exactement où il est, quelle est sa position. Et puis vous vous rappelez aussi d'un événement particulier lorsque Christ meurt sur la croix, concernant justement eh bien, certains cimetières. Vous vous rappelez? Que va-t-il se passer? Il va y avoir des résurrections aussi. Vous vous rendez compte? Le jour où Christ donne sa vie, il y a déjà des résurrections qui sont les prémices de sa propre résurrection. Hein, et c'est quelque chose là aussi qui va être marquant, le ciel qui va s'obscurcir, on le sait, les tombeaux qui vont s'ouvrir, et puis le voile du temple qui va se déchirer hein, de haut en bas. Et tout cela était les prémices de la puissance de Dieu, de la résurrection. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu ce matin. Et même s'il nous semble qu'il y a des éléments de nos vies qui sont comme mortes, eh bien, Christ est le Christ de la résurrection. Il a tout pouvoir. Et même à partir de rien, à partir du chaos, à partir de cette terre qui était informe et vide, eh bien, Dieu va créer. Dieu va créer. Si vous avez peut-être l'impression que ce matin, une partie de votre vie est comme vide, eh bien, attendez-vous aussi au Seigneur. Amen. Celui de la résurrection. Et puis, un autre signe, ce sont ces bandelettes. Et puis ce linge de lin fin qui recouvrait le corps de Jésus, les bandelettes qui sont à terre, et puis ce linge de fin lin, eh bien, qui lui est plié. Les bandelettes servaient bien sûr à maintenir ce linge sur le corps, et ensuite le corps était déposé de cette manière dans le tombeau. Il y a au moins deux vérités concernant là aussi ce signe compréhensible à l'époque pour les disciples. Le premier signe, il est en rapport avec le souverain sacrificateur. On en a parlé dernièrement, mais vous savez que le souverain sacrificateur, il avait quand même plusieurs habits pour officier. Il avait cet habit, on va dire, lorsqu'il officiait dans le lieu très saint, cet habit qui est décrit avec le pectoral, avec la tiare, etc. Mais lorsqu'il sacrifiait, eh bien, il avait d'autres habits. Il se revêtait d'habits de fin lin. Et quand une fois par an, le souverain sacrificateur devait expier donc les péchés du peuple et puis les siens également, il sacrifiait donc un bouc et un taureau. Et là, eh bien, il se dépouillait de ses habits sacerdotaux, il se revêtait de fin lin et il allait sacrifier donc le taureau et le bouc. Et vous imaginez bien sûr qu'en sacrifiant ce taureau et ce bouc, il y avait aussi du sang sur cet habit de fin lin. Alors, il ne pouvait pas entrer de cette manière dans le lieu très saint. Il venait devant la tente d'assignation, il entrait dans le lieu saint, il enlevait ses habits de fin lin qui étaient tachés de sang, il les pliait, il se lavait et il revêtait de ses habits sacerdotaux pour entrer dans le lieu très saint et offrir donc le sang des victimes expiatoires sur le propitiatoire. Et c'est une belle image ce matin pour nous, qui a été comprise par les disciples et qui pour nous peut-être l'est moins, mais en voyant ce linge de fin lin qui était plié de cette manière, eh bien c'était pour les disciples et pour nous cette belle réalité spirituelle. Jésus est entré dans le ciel une fois pour toutes pour apporter en sacrifice devant le Père eh bien, sa propre vie et de nous assurer désormais eh bien, du pardon de nos péchés et de l'entrée d'un libre accès dans le ciel. Amen. Et il y a ce beau verset, hein, nous le savons, dans Hébreux 4,14. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et puis la suite nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Ce matin, approchons-nous avec assurance. Christ, ce fin lin qui est plié, c'est l'image du souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes dans le ciel et qui ce matin est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Et puis, vous le savez aussi, hein, lors des repas, lorsque le serviteur dresse la table pour son maître, eh bien, il va rester pour faire le service. Bien sûr, il s'occupe pour que son maître eh bien, reçoive les plats, la boisson, etc. Il est esclave. Et puis lorsque le maître a fini, eh bien, il va s'essuyer bien sûr les mains, la bouche, sa barbe avec sa serviette. Et puis, il peut jeter sa serviette sur la table. Ça veut dire que l'esclave, le serviteur, peut débarrasser la table. Ou alors, s'il la plie ou s'il la roule, peu importe la traduction, eh bien, ça veut dire que ce maître va revenir. Ce n'est pas fini. Je vais faire une petite pause, je vais faire un petit tour dans le quartier en attendant le dessert. Le repas était bon, alors je fais une petite pause, mais je reviens. Et donc, le serviteur eh bien, ne débarrasse pas la table. Il sait, parce que cette serviette est pliée ou roulée, que le maître va revenir. Et ce matin, pour ses disciples, mais aussi pour nous, quelle belle réalité, hein, Jésus revient. Amen. Il revient. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas abandonnés. Mais il revient. Il ne nous abandonne pas. Il revient bientôt nous chercher. Et ça, ce sont pour nous les signes de la résurrection. Les signes de la résurrection. Il nous prépare une place. Et quand cette place sera prête, je viendrai vous chercher, dit Jésus, afin que là où il est, vous y soyez aussi. Moi, je suis toujours émerveillé, interpellé. En me rappelant que c'est bien Jésus qui nous prépare une place. Il aurait pu demander une brigade d'archanges, de séraphins, nettoyeurs, balayeurs, etc., préparés. Non, c'est le maître de la maison qui prépare. Ce n'était pas le rôle du maître. Tout à l'heure, on a vu cet esclave qui prépare la table. C'est lui qui nettoyait, c'est lui qui balayait, etc. Mais là, c'est Jésus, le maître, qui nous prépare une place. Quel accueil désormais pour chacun d'entre nous. Alors, les liens avec la Pâque. Y a-t-il un lien avec la Pâque? C'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, bon, je vous ai mis un petit coup de vieux français. Voilà, hein, donc vous lisez, etc. Ça, c'est l'aspect étymologique. Mais spirituellement, eh bien, on pourrait peut-être relire quelques versets de Jean 13. Je ne sais pas si je te l'avais mis, Jean 13. Et puis, on va prendre ce matin, non pas la Pâque, mais on va prendre la Sainte-Seine. Parce qu'il est vrai que Jésus fait le lien à travers la Pâque pour instaurer, pour inaugurer la Sainte-Seine qui est là aussi un des signes pour nous de sa mort, mais aussi, bien sûr, de sa résurrection. Juste dans Jean 13, hein, ce moment ô combien important. Et puis, nous pourrons ensuite, eh bien, ensemble, prendre la Sainte-Seine avant d'aller plus loin. Mais voilà ce qu'il est dit dans Jean 13. « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » Des versions dit « Il mit le comble à son amour. » C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, il prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Et puis nous connaissons la suite, il est dit que le Seigneur bien va instaurer à ce moment eh bien, cette sainte scène que nous allons prendre ensuite ensemble afin que dans sa grâce et dans sa bonté, ce matin, nous puissions aussi vivre ces réalités spirituelles de cette résurrection. Peut-être que trois frères et sœurs, librement ce matin, pendant qu'on va prendre ce moment, pourraient s'approcher justement de la table de la Sainte Cène et puis donc présenter ces moments au Seigneur en lisant un texte d'introduction dans Luc 22. Il me semble que celui-là, il y est, Luc 22, 15. Hein, je vous inviterai, vous qui êtes baptisés par immersion, bien, à vous lever pour partager ce moment. Et puis on va lire quelques versets pendant que trois bien-aimés vont s'approcher spontanément de cette table de Sainte-Cène pour la partager. Luc 22, verset 15, hein, nous dit ceci, c'est une parole de Jésus. Voilà, si d'autres bien-aimés veulent s'approcher pendant ce moment. Luc 22, 15, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, il remercia Dieu et il dit, prenez cette coupe, partagez-la avec vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Amen. Et ce matin, à travers ces éléments de la Sainte Cène, eh bien, nous nous souvenons que Christ a donné sa vie pour nous, que nous faisons partie de la même famille et qu'il revient bientôt nous chercher. Amen. Ça, c'est une belle réalité. Et il est rappelé que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, que le Seigneur, dans ces moments, bien, nous renouvelle dans les signes de sa résurrection. Amen. Alors, je vous invite à vous lever pendant quelques instants. Vous qui êtes baptisés par immersion, on va partager le repas du Seigneur pendant ce moment. Et puis, on va ensemble encore prendre quelques instants pour le bénir. Et puis, on continuera à partager, bien sûr, ce que signifie la résurrection, les liens avec la Pâque. On partagera suite à ce moment les liens avec la Pâque. Y a-t-il encore un frère ou une sœur qui voudrait s'approcher, puis Jérémy, si tu veux ensuite présenter ces moments aussi.
Oui, Seigneur, merci pour cette grâce de pouvoir être dans ta maison, Seigneur, être dans l'allégresse, Seigneur, de pouvoir t'élever. Merci, Seigneur, d'avoir quitté, Seigneur, le ciel de gloire à ma rencontre, à notre rencontre, à chacun d'entre nous. Merci aussi pour l'étonnement que tu as mis dans mon cœur ce matin à travers ce que Didier a dit, Seigneur. C'est que tu réserves une place pour moi, Seigneur, qui suis pécheur, mais tu intercèdes auprès du Père et pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que je peux être aussi comme ces femmes qui ont vu ce tombeau, Seigneur, dans l'étonnement, Seigneur, dans l'incrédulité. Mais merci pour cette paix, Seigneur, pour cette espérance que tu mets dans mon cœur. Je te remets, Seigneur, aussi ce pain, ce vin, Seigneur, que nous puissions le faire en bonne conscience, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur, de t'honorer. Et je me joins, Seigneur, à nos frères et sœurs, Seigneur, dans le monde, Seigneur, Ouais, qui intercède, Seigneur, qui prie pour nous. Et je veux t'élever et te bénir. Amen.
Moi un saut des un coup moi un pas me puissant même si les os de chêne je les traverse et avec toi Père, tu dormais, ne les empêche. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh Jésus, je me en se déchaîne, je les traverse et avec toi, Père, tu dormais les tempêtes, je suis tranquille car tu es là, je suis tranquille car tu es là.
Amen. Amen. Alors c'est un chant que nous pouvons chanter ce matin avec assurance. Je suis tranquille parce que tu es là. Il y a au moins deux liens avec la Pâque, puisque le lien c'est ce moment où Jésus inaugure cette sainte scène qui est bien sûr dans la réalité de la résurrection à partir de la Pâque. La première réalité, c'est que Jésus devient pour nous l'agneau pascal. C'est 1 Corinthiens 5 qui nous le rappelle. Jésus devient l'agneau pascal, cet agneau qui est sacrifié au moment où l'ange exterminateur va passer au-dessus, vous vous rappelez, des maisons des Hébreux. Et il y a une réalité aussi, c'est les premières paroles de Jean-Baptiste. Lorsqu'il va voir Jésus, vous vous souvenez, il va dire « Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On se souvient qu'environ 2000 ans avant, bien Abraham va devoir, en tout cas à ce moment-là, c'est ce qu'il reçoit, sacrifier son fils. Et Abraham lui aussi pose une question, il dit « Mais où est l'agneau ? Où est l'agneau de Dieu ?» Et Dieu va faire grâce, connaît l'histoire de ce bélier qui va se prendre les cornes dans ses broussailles. Mais 2000 ans après, alors c'est vrai que 2000 ans ça paraît long, mais pour Dieu c'est rien. Entre le moment où Abraham pose la question « Où est l'agneau ?» et au moment où Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », pour Dieu c'est rien. Nous ça fait 2000 ans. Mais pour Dieu c'est un battement de cils. Et voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa résurrection confirme son sacrifice. Il n'y a pas de résurrection sans mort, nous le savons. Et ce matin, bien Jésus devient l'agneau pascal. Amen. Celui qui a donné sa vie, le sang duquel a coulé pour nous à la croix du calvaire. Et puis Jésus aussi, c'est en tant que premier-né qu'il va s'offrir. Qui est premier-né dans sa famille ce matin? Levez voir, y a-t-il des premiers-nés parmi nous? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Voilà, quelques-uns. Vous connaissez vous savez qu'après ce récit d'Exode, où l'ange exterminateur va passer au-delà des maisons, bien Dieu va dire maintenant il faut racheter tous les premiers-nés. Et à chaque fois qu'un premier-né, que ce soit du bétail ou dans un foyer, naissait, il fallait le racheter. Et vous, en tant que premier-né, vous avez été racheté. Extraordinaire quand même. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une certaine valeur pour les premiers-nés dans la maison, etc. Mais il fallait racheter les premiers-nés. Et Jésus lui-même a été racheté, nous le savons, hein, puisque au temple, on va offrir le sacrifice de pigeons. C'était l'offrande du pauvre, mais il a été racheté. Mais la Bible nous dit que lui, en tant que premier-né, eh bien, il va racheter, on va dire, tous les premiers-nés des générations futures. Et vous qui avez levé le bras ce matin, eh bien, on pourrait dire que d'une manière particulière, hein, vous avez été aussi racheté par l'agneau de Dieu. En tant que premier-né, il a donné sa vie pour que désormais, eh bien, vous puissiez aussi bénéficier du salut. Et puis non seulement le salut ne s'est pas arrêté au premier-né, hein, mais pour le deuxième, alors ça, c'est quoi après? C'est le cadet, la cadette, hein, le dernier c'est le Benjamin ou la Benjamine, je sais. Et puis tous les autres, hein, les familles nombreuses, etc. Eh bien, Jésus, en tant que premier-né, a donné sa vie pour que toutes les familles de la terre, pour que tous les enfants, pour que tous les ados, pour que tous les papis de la mamie soient rachetés. Et j'aime bien ce texte, hein, c'est Jean 3, 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, premier-né ou pas, cadet ou pas, Benjamin ou pas, eh bien que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et ça, c'est un lien aussi avec la Pâque. Avec cette Pâque où Jésus, en tant que premier-né, eh bien, va s'offrir pour le rachat de tous les hommes. Et puis, on va terminer avec les implications, les conséquences de la résurrection. Quelles sont les implications dans mon quotidien aujourd'hui? Christ est ressuscité. Eh bien, on va reprendre cette phrase hein, que cet ange va dire à ces femmes. « Quant à vous, n'ayez pas peur. » Parce que je sais que vous cherchez le Christ crucifié. Il est ressuscité. Quant à vous, n'ayez pas peur. Nous savons que les gardes ont été liquéfiés sur place. Ils ont eu la peur de leur vie, etc. Et ces femmes, on peut le comprendre aussi, doivent être un petit peu perturbées. Nous, quand on vit un petit tremblement de terre, hein, de temps en temps, on en a vécu un, ça, très très léger. Moi, je n'ai jamais vu les meubles bouger. Par contre, c'est comme un camion à 38 tonnes, un gros bruit, etc. On n'est déjà pas trop rassuré. Mais là, imaginez quand même, hein, l'ange, la pierre qui est roulée, les gardes qui tombent comme morts, etc. Bon, on peut comprendre que ces femmes, quand même, il y a le cœur qui s'agite un petit peu. Et l'ange va leur dire, pour vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ce matin, une application concrète, c'est cette sérénité, cette paix intérieure que Dieu promet à tous ses enfants, à tous ses disciples, face au bouleversement de ce monde, de notre société. Mais c'est peut-être aussi des micro-tremblements de terre, c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans la famille, c'est peut-être dans le quartier. Il y a des tremblements de terre eh bien, dont l'épicentre est tout près de nous, que les autres ne ressentent pas forcément, mais qui sont quand même bien réels. Et alors, parfois, on a une grande tape dans le dos, on se dit mais pourquoi t'as peur? Moi, j'ai rien ressenti. Oui, peut-être que moi, j'ai rien ressenti, mais il y a peut-être aussi des problèmes bien spécifiques, des tremblements de terre bien spécifiques en ce moment que vous vivez. Alors, Jésus vous dit, me dit, nous dit, bien, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur face aux bouleversements prophétiques qui sont devant nous, face à ce monde qui court à sa perte. Eh bien, Jésus nous dit, n'ayez pas peur, restez serein. Restez tranquille, je suis avec vous, je suis là, n'ayez pas peur. Luc 21, 28 hein, nous dit ceci également concernant ce monde. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous. Et puis il est dit, relevez la tête. Hein, quand on est fatigué, quand on est malade, quand on a un poids sur les épaules, eh bien, on a tendance bien sûr à baisser la tête. Et on peut voir simplement au physique de quelqu'un s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, n'aie pas peur, relève la tête. Ça, c'est un effet de la résurrection. Amen. Jésus est vivant et il s'adresse à nous ce matin, à nous qui sommes son peuple, de relever la tête. Et ainsi, quand on cherche le Christ crucifié, eh bien, nous trouvons aussi le Christ ressuscité. Quand nous approchons de la croix, à cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses, à cause de nos manquements, nous le trouvons aussi dans toute sa puissance, pour relever, pour fortifier, pour encourager, pour pardonner, pour consoler. Amen. Il est ainsi. Et ce matin, le Seigneur sait que nous le cherchons, crucifié bien entendu. Nous le cherchons parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, bien nos vies sont transformées. Alors il dit, vous cherchez le Christ crucifié, vous le trouverez ressuscité. Vous le trouverez ressuscité dans sa puissance de vie. Amen. il y a un lien très fort entre la résurrection et notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, dit l'Écriture, eh bien notre foi est vaine, notre foi est vaine. Mais notre foi n'est pas vaine ce matin, parce qu'il est ressuscité, il est vivant, hein, au siècle des siècles, et il nous promet sa paix intérieure. Il nous promet également sa présence, hein, la présence de Jésus dans Matthieu 28, mais il y a d'autres textes. Il nous rappelle eh bien que le Seigneur a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Je suis avec vous tous les jours. » Et la résurrection ce matin, c'est un gage de sa présence quotidienne, pas simplement pendant les moments de fête, hein, sur le calendrier chrétien, etc., pas simplement les dimanches, mais chaque jour, Jésus nous promet, nous rappelle qu'il est présent. Et il le dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, j'enverrai un autre moi-même, un consolateur, il vous annoncera, il vous parlera, il vous conduira, il vous révélera. L'enseignement de Jésus, sa vie, ses paroles, ses miracles ne sont pas celles d'un auteur qui est mort. Je ne sais pas si certains connaissent Agatha Christie, hein, donc vous êtes peut-être une fan d'elle, etc. La reine du suspense, etc. Ses énigmes, alors on peut la connaître par cœur, on peut avoir lu des biographies sur elle, et on peut s'inspirer peut-être de ses romans, etc. Il y a juste un petit problème, c'est que si vous voulez la rencontrer, vous ne pourrez pas, elle est morte. Elle est morte. Alors bien sûr, on peut s'inspirer de ses livres, etc. Elle est morte. Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et sa parole, elle est vivante. Bien sûr que nous pouvons la lire, et la méditer, mais on a besoin de son esprit. On a besoin qu'il nous accompagne par son esprit pour qu'elle soit rendue vivante, pour que dans nos journées, elle soit constructive, qu'elle puisse nous guider, qu'elle puisse nous encourager. Oui, ce matin, bien, la résurrection nous rappelle, nous promet la présence de Jésus. Amen. La promesse de Jésus. La troisième pensée, c'est que nous sommes considérés pour lui comme des VIP. Hein, j'aime bien ce terme, des very important person. Pardonnez-moi pour l'accent. Mais en tout cas, pourquoi ? J'aime bien le texte 1 Corinthiens 15-6. Après ces événements, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Pas une seule fois dans l'Écriture, il est dit que Jésus va apparaître à des rois, à des membres du Sanhédrin, à Pilate, à Hérode, à des gouverneurs. Jésus va réserver sa présence uniquement à ses disciples, uniquement pour ses disciples. Et ce matin, bien de la même manière qu'il nous prépare une place, cette place est réservée uniquement pour ses disciples. Nous sommes ses VIP, nous sommes pour le Seigneur ses bien-aimés. Et il nous promet, et nous sommes considérés pour lui comme la prunelle de ses yeux, bien entendu, et il nous prépare ce matin cette place. Nous sommes des privilégiés. Hein, parfois, il y a des promotions où il y a des événements qui sont réservés à ceux qui ont la carte de membre, avant tout le monde, etc. On a des réductions, on a toutes sortes de choses. Eh bien, Jésus a réservé sa présence, cette résurrection pour ses disciples uniquement. Jamais, il n'a perdu du temps à aller voir quelqu'un d'autre. Il aurait pu aller voir Pilate, il aurait pu aller voir Hérode et dire, tu vois, tu m'as crucifié, mais je me prie. Non. Le temps que Jésus a eu sur cette terre pour encore se manifester auprès de ses frères et sœurs, il l'a consacré uniquement à ses bien-aimés. Quelle grâce ce matin. Jésus nous consacre tout son temps, toute son énergie, toute sa prière, tout son amour, tout son pardon, toute sa bienveillance. Nous sommes ses VIP. Amen. Et on veut le bénir. Quelle consolation pour nous. Jésus sait prendre du temps. Jésus a du temps à prendre avec nous parce qu'il nous le consacre de cette manière. Et puis encore deux pensées, il y en aurait d'autres, mais nous sommes renouvelés dans la foi. Les implications de la résurrection, vous rappelez de ces deux disciples qu'on a appelés les disciples d'Emmaüs, hein, donc, qui quittent Jérusalem, bien sûr, vers Emmaüs. Alors ils sont attristés, ils sont déçus, ils sont frustrés. On ajoute tous les qualificatifs qu'on peut vivre également nous-mêmes. Ils sont même déçus, ils pensent avoir même été trahis par le Seigneur. Voilà, hein, il nous avait dit qu'il ressusciterait, etc. Mais lui, on n'a pas trouvé, vous connaissez. Et là, ils sont découragés, tout cela. Mais pendant cet accompagnement, ils ne le reconnaissent pas encore. Mais après, ils vont dire cette parole. Mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures ? La flamme de leur foi commençait à être renouvelée pendant qu'ils cheminaient, pendant que Jésus leur expliquait, eh bien, ces bien-aimés vont être encouragés, vont être fortifiés. Que le Seigneur, ce matin, renouvelle la foi de notre, la flamme, pardon, de notre foi, par sa parole, par ses encouragements, par son esprit, que nous puissions ressortir de ce lieu, même s'il y a un petit peu de pluie, et ça fera du bien quand même pour les plantes, mais que notre cœur, lui, soit renouvelé. Amen. Soit enflammé, soit réenflammé par la présence de Jésus. Ah oui, des informations, on en reçoit, on entend, et à part Phare FM, hein, dans d'autres, oui, là, écoutez Phare FM, là, on est joyeux, on est heureux, hein, mais à part Phare FM, excusez-moi, mais c'est un coup à vous mettre le moral à zéro dès 8h du matin. Bon, mais ça, c'est le monde, hein, et ça ne va pas s'améliorer. Donc, écoutez Phare FM, voilà, au moins, vous aurez de la joie dans le cœur, mais c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus qui va ranimer notre foi est ranimée. Et puis, Jean 21, je termine, on est restauré malgré nos infidélités. Ah, il y en a une belle d'infidélité, celle quand même de Pierre. Hein. Ah, Pierre, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, etc. On connaît ce phénomène de Pierre, toujours prêt à aller jusqu'au bout, etc. Et puis, il va renier le maître. Et là, on sait de quelle manière. Hein, Jésus, bien, Pierre, m'aimes-tu? On connaît, oui, Seigneur, je t'aime, c'est reparti. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Puis là, je pense qu'il réfléchit un petit peu, Pierre, m'aimes-tu? Et là, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Je crois que tranquillement, le Seigneur l'a amené à ce constat de dire, bon, Seigneur, effectivement, tu sais, voilà, tu sais comment je t'aime, tu sais jusqu'où mon amour pour l'instant est capable d'aller, mais au moins Pierre. Et là, et on voit Seigneur qui réintègre, qui restaure, qui pardonne, qui encourage même ceux qui l'ont renié. Et je pense, en concluant ce culte, particulièrement peut-être à tous nos frères et sœurs qui ont commencé avec nous, peut-être que même certains nous ont conduits au Seigneur et puis pour l'instant, eh bien, ils sont arrêtés au bord du chemin, ils sont assis. Pour toutes sortes de raisons, ils ont été déçus, peut-être même se sont-ils sentis trahis par le Seigneur lui-même, par l'Église, par les frères et sœurs, peu importe. Et pour l'instant, ils sont assis au bord du chemin. Jésus, le ressuscité, il pardonne. Il guérit, il restaure. Même ses bien-aimés qui, pour l'instant, et on continue à prier pour eux. Et on continue à penser que le Seigneur aussi les aime de la même manière. Ils sont encore des VIP pour lui. Et ses bien-aimés, eh bien, nous le croyons, nous l'espérons, ont besoin de repartir sur le chemin accompagnés de Jésus. Amen. Alors on termine, c'est la lecture, ce sera votre méditation de la semaine. On vous interrogera donc la semaine prochaine sur cette méditation. Non, vous pouvez la méditer comme ça, aucun problème. Éphésiens 1:18, voilà quelques éléments pour conclure. Éphésiens 1:18, après les signes de la résurrection, après les liens de la Pâque, eh bien il y a aussi des effets de la résurrection. Je prie, c'est Paul, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, et là c'est pareil, si on fait une analyse en français, on a comme une sorte de vertige devant les mots qui sont employés, devant l'espace spirituel qui est ouvert. Il dit ceci, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alors peut-être que dans cette semaine, eh bien, on pourra demander au Seigneur qu'il nous roule une pierre. Peut-être qu'on va identifier cette semaine une pierre particulière qui pour l'instant nous bloque, nous empêche de nous épanouir, nous empêche d'aller un peu plus loin que le Seigneur. Eh bien, demandons-lui, Seigneur, tu vois, j'ai cette pierre. Tu es le Christ de la résurrection. Alors, viens me rouler cette pierre. Amen. Viens me rouler cette pierre et je crois que nous progresserons et je crois que nous continuerons à mieux le connaître comme notre Seigneur. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Sommes heureux d'avoir commencé à cheminer avec toi. ou plutôt de te faire connaître à nos cœurs. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais toujours le premier pas. Alors ce matin, nous voulons confesser une fois de plus la joie que nous avons de connaître le Christ crucifié, mais aussi ressuscité, celui qui nous prépare une place, celui qui revient bientôt nous chercher. Je te prie pour des frères et sœurs ce matin qui ont comme des pierres encore et qui se posent cette question, mais qui va me rouler cette pierre ? Seigneur, tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et nous prions ce matin pour que ces pierres soient roulées et pour que ces bien-aimés puissent trouver en toi le Christ dans toute sa puissance, son autorité, sa bienveillance et son amour. Et puis nous prions aussi pour tous ces frères et sœurs qui ont commencé à cheminer avec toi et qui, pour toutes sortes de raisons, aujourd'hui sont assis au bord du chemin. Te prions pour qu'ils puissent à nouveau te connaître, te rencontrer, qu'ils puissent, Seigneur, saisir à nouveau cette main que tu leur tends, qui n'a jamais cessé d'être tendue. Bénis-les, nous en connaissons certains, Seigneur, particulièrement, et nous te prions ce matin de les visiter, que ce dimanche soit un temps de résurrection, que ce dimanche soit un temps de rappel pour leur cœur, dans le nom de Jésus. Donne-nous encore des occasions cette semaine de témoigner de ta résurrection. Merci pour tout ce que tu es devenu dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, hein, que cette flamme soit renouvelée dans notre cœur, cette flamme de foi, la flamme du ressuscité. Amen. On va conclure ce moment avec quelques annonces. Peut-être vous avez aussi un sujet de reconnaissance ou un sujet de prière. D'abord, merci pour vos prières, puisque j'ai dû descendre donc quelques jours dans le sud de la France pour accompagner mes parents. Ma mère avait un examen avec une suspicion ensuite d'hospitalisation. Mais par la grâce de Dieu, donc, la coronographie n'a rien de révélé, de particulier. Hein, il n'y a pas eu besoin de mettre des stents, d'hospitaliser. Merci pour vos prières. Je vous transmets les salutations de mes parents. Il y aura certainement un traitement médical à adapter. Mais en tout cas, Dieu est bon. Hein, et mes parents témoignaient, même si c'est toujours difficile à définir, mais de cette réalité d'être soutenu dans la prière, par la prière, d'être porté par la prière. C'est dur à expliquer, hein, mais nous qui, de temps en temps, passons par là, eh bien, on sait ce que ça veut dire. Hein, et donc, mes parents, et puis toute l'Église aussi de la Seine, eh bien, vous remercie pour vos prières et votre soutien fraternel qui est tellement précieux, bien sûr, dans ces moments. Y a-t-il peut-être aussi un sujet de reconnaissance que vous aimeriez partager ou un sujet de prière, puisque nous voulons continuer ce matin à prier les uns pour les autres. S'il y a des besoins particuliers, hein, donc vous me les partagez pendant que je termine les annonces. Donc vous connaissez maintenant les dates de la friperie, hein, donc des 50 centimes d'euros, femmes, hommes, enfants. Vous pouvez aussi la faire connaître. Hein, même si vous n'avez pas de besoin particulier, vous pouvez dire à votre voisin, à votre voisine, aux enfants, etc. Bien, tiens, je t'amène quelque part. Ce sont des habits ou des accessoires qui sont propres, qui ne sont pas usagés. Et puis là aussi, hein, dans un contexte de restriction économique, c'est toujours aussi un moyen de faire connaître eh bien, l'amour de Dieu, donc de manière très concrète, très pratique. Vendredi 21 et puis samedi 22 avril, donc de 8h à 16h. Concernant les annonces, donc mardi prochain, la réunion de prière, mardi 25, donc nous aurons une réunion de prière à la ruche, hein, donc commune aux assemblées de Saint-Louis, donc à 20h. On vous rappellera, hein, mais le mardi 25, donc l'étude biblique sera décalée d'une semaine, hein, puisque c'était le moment de l'étude biblique, mais on veut se réjouir aussi, hein, de participer à ces moments ensemble dans la prière pour notre ville, pour des besoins spécifiques, donc le mardi 25, donc à 20h à La Ruche. Voilà, y a-t-il une autre annonce, un sujet de prière que vous aimeriez partager ce matin, donc pour conclure ces moments, y a-t-il un besoin particulier ? On a fait le tour de toutes les annonces, d'accord, merci. Voilà,